Irène, autre question.
Oui. Est-ce que je peux prolonger ma question? Puisque vous opposez moralité et légalité, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'une moralité réalisée dans une société? Et à partir du moment où des valeurs sont réalisées, est-ce que l'on ne peut pas dire que finalement ce sont des règles, ça devient des règles, ce n'est pas dans la nature d'une société que d'avoir une moralité sous forme de légalité? Autrement dit, l'histoire juive elle-même nous a montré que quand Israël a vécu comme nation, qui a été confronté à des réalités politiques et autres, c'était, comme toute société, en vertu de la légalité, de lois politiques précises et juridiques que cette société a vécu, que ce soit Israël ancien ou Israël d'aujourd'hui, et non pas en vertu d'une moralité. Alors, je voudrais terminer ma question sous cette forme. Est-ce que l'échec d'Israël ne consisterait pas précisément par le fait qu'elle n'a défini le problème de l'adéquation de l'éthique à la réalité que dans le cadre restreint du rituel?
Oui, vous avez posé plusieurs questions cette fois à la fois. Je prends la première partie. On trouve effectivement d'abord l'analyse que vous avez faite, il me semble, se trouve être l'essentiel peut-être de l'œuvre de Bergson dans ce problème, dans les dessous de la morale et de la religion. C'est le fait que la moralité a tendance à se dégrader en légalité. C'est-à-dire les héros de la moralité, au niveau de la société d'Israël, il s'agissait des prophètes de la loi, je dis bien des prophètes de la loi, enfin, c'est une légende qui consiste à opposer les prophètes et la loi. Les prophètes ont été les prophètes de la loi. De la loi vraie, c'est-à-dire de la loi visée comme étant la moralité comme loi, et non pas la légalité comme loi. La notion de légalité comme loi est romaine, elle n'est pas hébraïque. Eh bien, les héros de la morale créent, si vous voulez, en tout cas expriment, les règles de la moralité vraie. Et lorsque la personne humaine, l'individu humain, c'est l'analyse bergsonienne, n'est pas à la hauteur de cet héroïsme moral au niveau du prophète, alors il se donne à imiter ce qui a été moralité vivante chez les créateurs de morale, il se donne à imiter et la moralité se dégrade et par conséquent elle devient l'égalité d'elle-même et il y a l'échec, bien évidemment. Dans la deuxième partie de votre question, si je me souviens bien, vous avez ramené la préoccupation éthique de la société juive a des problèmes de rituel. Il n'y a pas que cela, quand même. Mais dans tous les cas, je crois qu'on peut vous donner raison, dans une certaine mesure, en ce qui concerne l'identité juive de l'exil. C'est dans les ghettos que la société juive a été obligée à son corps d'effondrement, a été condamnée à ramener, si vous voulez, et c'est encore une apparence, à ramener sa préoccupation des grandes valeurs éthique qu'elle porte en elle selon l'analyse que j'ai faite, à des problèmes de vie privée ou à des problèmes de vie individuelle et en fin de compte à des problèmes de rituel. Et cependant, je dois quand même dire une chose, c'est que ce n'est qu'une apparence malgré tout. Parce que ce n'est que l'apparence de la forme visible, extérieure, compris les cités juives, comme elles ont existé encore jusqu'avant l'émancipation, jusqu'avant la Révolution française. Parce que depuis ce temps-là, il n'y a plus de cité juive. En tout cas, en Europe, il y en avait encore en Afrique du Nord ou dans d'autres parties du monde, et c'est déjà fini, il n'y en a plus. Et malgré tout, il est resté quelque chose d'autre. C'est que du point de vue de l'intériorisation, dans la vie intérieure, et pas seulement de la vie rituelle, il est resté la connaissance, jusque dans le détail le plus infime, de ce qu'est la vraie science de la morale. Ce que je voudrais mettre en évidence, c'est ceci. C'est que l'essentiel de la pensée juive en tant que telle, c'est, nous en avons eu un petit exemple, si vous voulez, hier dans l'étude des textes talmudiques, c'est cette connaissance du Talmud qui s'est préservée malgré le ghetto, je dis bien malgré le ghetto, et que l'identité d'Israël a ramené de son voyage de 2000 ans d'exil et a été capable de ramener de son voyage de 2000 ans d'exil. Il faut l'expérimenter. Si vous voulez, je vous renvoie à une expérience. C'est-à-dire l'étude du Talmud, vous êtes sûr de découvrir que ça existe, au moins. Et ce qui est étudié dans l'étude du Talmud, c'est bien cela, l'éthique qui ne soit pas le fantôme d'elle-même, c'est-à-dire la légalité, la loi de la moralité vraie. Pendant des siècles. Hein, nous nous sommes baladés dans tous nos voyages, à travers toutes les cultures, avec le Talmud serré sous le bras, et en disant ça, je me demande comment on a pu faire, c'est énorme. C'est vrai, je me demande comment on a pu faire, ça, quand je vois les difficultés qu'on a pour faire envoyer nos petites bibliothèques d'un pays à l'autre. Eh bien, c'est vrai, Israël a réussi ce tour de force de voyager pendant 2000 ans partout en préservant ce contenu extraordinaire qu'est la connaissance du Talmud et qui commence, ces livres commencent à être ouverts de nouveau, pas seulement dans les ghettos, ils sont ouverts et il faut faire l'expérience. Et on ne peut pas parler du Talmud, il faut l'étudier dedans. Et je vous rappelle encore sous forme d'histoire juive, cette histoire qu'on raconte dans les yeshivot, un élève qui ne voulait pas étudier, qui a dit à son maître, je ne peux pas étudier aujourd'hui, j'ai mal de tête, et le maître qui lui a répondu, lis une page de Talmud, tu verras que tu n'as même pas de tête pour avoir mal de dents. Et ne croyez pas que j'exagère. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une lecture superficielle, d'un déchiffrement, d'un déchiffrage, enfin d'une traduction pénible pour passer un examen. Il ne s'agit pas du tout de cela. Hein, il s'agit d'entrer profondément dans l'intimité de ce qu'est l'âme juive qui est enfermée, et elle n'est pas ailleurs, hein, qui est enfermée profondément dans l'étude talmudique. Et vient le temps, d'ailleurs, où non seulement les juifs commencent à rouvrir ce livre, puisque les universités israéliennes ont eu le génie, je ne sais pas qui leur a soufflé ça, de mettre ça au programme. Alors, donc les juifs lisent aussi, mais même déjà les goyim vont commencer à découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Eh bien, ce qui est d'ailleurs destiné à réinstituer. On n'a pas l'habitude, enfin, dans la politesse juive, de citer des hommes qui sont présents. Enfin, je voudrais citer un enseignement que j'ai entendu du rabbin Zini ici présent il n'y a pas très longtemps. Il y a une grande différence entre la valeur de ce qu'il y a enfermé dans l'étude traditionnelle et la valeur de ce qui peut être recueilli de l'héritage des Grecs, une différence de nature de l'héritage des Grecs. À la limite, si vous voulez, grâce à l'héritage des Grecs, eh bien, on peut avoir des moulins à café électriques. Bien, ça, finalement, des satellites lunaires. Ça, il faut le faire, mais on peut le faire, pas puisque les Grecs l'ont fait. Mais la différence, comment dire, d'intensité d'énergie humaine pour se fabriquer une arme telle que Israël se l'est fabriquée, ça, il faut des siècles, et c'est pas avec trois années d'études de licence qu'on arrive à savoir ce qu'il y a dans ce qui s'est fabriqué pendant des siècles. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y a eu une espèce de dévalorisation par les Juifs de leur propre identité, alors qu'ils ignoraient qu'ils possédaient exactement ce qu'attend l'humanité et ce qu'elle réclame d'Israël. Il s'agit du Talmud. La loi de la moralité vraie, qui n'est pas la légalité, c'est le Talmud. Si vous avez encore un peu de temps, j'avais l'intention de vous lire au moins trois pages de la Gemara concernant Hanouka. Trois pages. Il n'y en a pas trois lignes de la Gemara concernant Hanouka, et qui nous donne une illustration, j'essaierai de faire ça très rapidement, une illustration de l'analyse que nous avons eue tout à l'heure. Les trois lignes que je vais vous lire, je pense, illustrent l'analyse que nous avons eue tout à l'heure de l'opposition des deux projets de la morale, l'un à la manière de l'identité grecque, projeter la raison qui fait la science sur le problème de la moralité, en parlant, je pense, à Kant, pas qu'il a bien vu le problème, puisqu'il a parlé de la raison pure dont l'objet est de faire les sciences, et d'autre part de la raison pratique dont l'objet serait de faire la morale, ce qu'il nomme, lui, la raison pratique. Alors, dans un autre vocabulaire, je dirais, d'une part, l'âme grecque qui tend à coïncider avec son intelligence et que cela, et l'âme hébraïque qui est au-delà de l'intelligence. Nous allons avoir en trois lignes une discussion des talmudistes à propos de Hanouka et sur le point suivant. Et par là, je rejoins par un autre biais la question qui m'a été posée à propos de Pourim. Vous savez que nous avons un certain nombre de commandements de la Torah, un certain nombre donc, de rites qui en découlent, de manière d'agir, de comportement, et un certain niveau d'authenticité, le comportement est ritualisé, consacré par le rite. Eh bien, où il est dit explicitement dans la loi écrite, dans la Torah, dans le Pentateuque, ce que nous disons en hébreu Torah Shebichtav, où nous sont enseignés les différents commandements que nous avons à réaliser. Mais que nous avons d'autre part toute une série de mitzvot, toute une série de commandements qui dérivent de l'enseignement des maîtres de la Torah et non pas de la Torah donnée telle qu'elle est donnée par Moïse, qu'on appelle la Torah Shebaalpeh. Enfin, mitzvot midoraita, mitzvot midrabanan. Or, le rituel de la Hanouka est introduit par une bénédiction qui dit exactement comme pour les mitzvot qui viennent de la Torah Shebichtav, c'est-à-dire de la loi écrite, qui dit que nous reconnaissons Dieu comme source de bénédiction, je vous traduis la formule, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer, nous a demandé d'allumer la Hanouka, et la Gemara a demandé où il nous a ordonné, puisque tout cet événement se produit bien longtemps après la Torah elle-même, vous comprenez? Et c'est donc là, si vous voulez, la source dans la Gemara, dans le Talmud, de l'origine des rites institués postérieurement à la révélation de la Torah au Sinaï, et qui cependant sont introduits par une bénédiction qui les rattache et qui leur donne la valeur de l'obligation biblique de la Torah Shebichtav. Vous comprenez comment est le problème? Or, paradoxalement, c'est à propos de Hanouka que la question est posée, alors qu'elle aurait dû être posée à propos de Purim, de la lecture de la Megillah. Vous voyez? Alors là, la Gemara elle-même propose deux réponses différentes, et nous allons voir effectivement que cette problématique, la morale comme résultat du travail de la raison, ou la morale comme résultat du dévoilement d'une certaine identité, d'une certaine âme, vous voyez la différence. Nous allons le lire, je pense, très rapidement en clair dans la Gemara elle-même. Alors ceci se trouve à la page 23 de la Gemara de Shabbat. Alors la Gemara pose la question, Maïm et Barer, quelle est la bénédiction que nous devons dire avant d'allumer la Hanouka? Maïm et Barer, elle répond, mais Barer, on doit bénir, dire comme bénédiction, Asher ki desha nous le mitzvata, qui nous a sanctifiés par ses commandements, Vetziva nous le hadlik, ni Asher Hanouka, et nous a donné la mitzvah d'illuminer la lumière de la Hanouka. Vous voyez pourquoi Israël est chargé de faire que la lumière soit allumée. Ve'echam tivanu, dit la Gemara. Et où est-ce qu'il nous l'a ordonné? Où lisons-nous dans la Torah que nous sommes ordonnés de cela? Deux réponses. Première réponse, du verset qui se trouve dans le chapitre 17 du Deutéronome, Lotatsur, c'est-à-dire, il y a institué dans le chapitre 17 du Deutéronome le principe suivant. C'est la loi telle que les juges de la génération doivent la donner que nous devons suivre. La loi est absolue en elle-même, mais elle doit être formulée par les responsables de la loi du temps pour lequel la loi doit être donnée. C'est-à-dire, en d'autres termes, si la génération des événements de Hanouka a jugé effectivement que déjà avait émergé dans l'histoire du septième jour un événement de l'ordre du huitième, c'est la Torah elle-même qui avait prévu de leur donner l'habilitation de le décider. Bien. Mais deuxième réponse proposée, c'est un verset du chapitre 32 du Deutéronome cette fois. Le verset dit « She'al abicha ve'yagitra zekencha ve'yumgulach » Le verset dit, interroge ton père et il t'expliquera, interroge tes ancêtres et il te racontera. Un tout autre verset. On se demande comment ce deuxième verset peut fonder le fait que nous disons déjà que c'est la Torah qui a donné légitimité, a habilité les sages du temps des Maccabées à instituer la Hanouka. Mais je crois que le premier verset renvoie précisément à cette autonomie de la raison humaine. Parce que nous avons une règle extraordinaire quand les choses coïncident. Nous avons une règle concernant la décision à donner pour un problème qui apparaît dans l'histoire et comment la loi orale, la loi orale doit décider de répondre à la question suivante, étant donné le problème qui est posé par l'histoire, qu'est-ce que la Torah de Moïse répond? Faire parler la Torah de Moïse pour des cas qui sont impliqués, bien entendu, dans la Torah de Moïse, mais qui ne sont pas désignés explicitement. Et là, la règle rabbinique consiste précisément à donner autonomie à la raison, de telle sorte de pouvoir déduire par le procédé de la logique, puisque le temps de la prophétie est clos, déduire la décision à donner. En général, l'identité de chacun des sages va jouer dans la réponse qu'il donne. Lorsqu'une personne parle, ce n'est pas uniquement son intelligence qui parle, c'est aussi son âme. Mais malgré tout, le critère de la décision qui sera à prendre, c'est de prendre la majorité des opinions, et par conséquent, on considère la force rationnelle de l'intelligence comme devant jouer dans l'ordre de la loi à formuler, de la formulation de la loi, puisque le temps de la prophétie de la loi de Moïse a cessé. Ça, c'est la première perspective. Finalement, c'est la deuxième qui sera retenue. La deuxième qui consiste à dire, à nous inviter à faire référence à l'identité d'Israël telle qu'elle se prépare à travers le père immédiat que nous avons chacun depuis les ancêtres. Je vous relis le verset. Cher Abicha et Agetra, interroge ton père et il te racontera, et tes ancêtres ils t'expliqueront. C'est-à-dire, c'est une certaine identité, c'est une certaine manière d'être au niveau de l'âme que l'on se réfère pour avoir à décider ce que la Torah a à dire. Je reviens à une analyse d'hier et d'avant-hier, d'ailleurs, plutôt d'avant-hier et d'avant-avant-hier, c'est que c'est la loi morale lue par l'identité d'Israël qui est finalement le dévoilement de l'intention du Créateur. J'entends moi aussi le caractère exorbitant de ce que je vous dis, mais enfin, bien que schématique, vous comprenez les implications que cela représente. Alors je crois, c'est cela le ridouche au fond, qu'il est important que ce soit à propos de Hanouka qu'on ait préféré le deuxième verset au premier. À propos de toutes les autres mitzvot, il suffit du premier verset. Les juges de chaque génération sont habilités de par la Torah elle-même à donner de par leur raisonnement les implications de la Torah qui deviennent la loi pour nous. Pour toutes les mitzvot, ça peut aller. Sauf pour celle-là, parce que c'est précisément l'événement où sont en conflit les deux méthodes. Celle, à la manière des Grecs, faire travailler la raison sur le contenu des valeurs, et celle, à la manière d'Israël, faire parler l'identité profonde pour dire ce qu'est la valeur. Est-ce que vous avez bien compris le chidouche? C'est-à-dire qu'à propos de Hanouka, il fallait donner le deuxième verset, en particulier. Bon, bien nous avons.